Bonjour. Vous écoutez Parlez-la la crête. Cette série de conversations organisée par la Fondation Vimy est issue d'un partenariat avec l'Office national du film du Canada et bénéficie de l'appui d'anciens combattants au Canada. Je m'appelle Caitlin Bailey et je suis la directrice générale de la Fondation Vimy. Aujourd'hui, nous explorerons le thème du rôle des femmes dans la Première Guerre mondiale. Par-delà la crête vise à jumeler des chercheurs avec des anciens membres du programme de la Fondation Vimy afin qu'ils discutent d'un thème relié à la Première Guerre mondiale, à partir de nos perspectives contemporaines. Cet épisode, originellement diffusé en tant que webinaire, met en vedette Adeline Abel-Surton, membre du programme de 2019, et Chloé Poitras-Raymond. Chloé Poitras-Raymond est candidate à la maîtrise en histoire à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur la gestion des crimes de violence sexuelle perpétrés par les soldats britanniques lors de la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Elle est également accompagnatrice pour les programmes de la Fondation Vimy. D'origine trinidadienne québécoise, Adeline Abel-Surton a reçu le prix Vimy Beaverbrook en 2019. Poétesse, musicienne et journaliste étudiante, elle compte faire carrière dans le domaine de l'histoire. Le prix Beaverbrook Vimy invite des étudiants canadiens, britanniques et français à suivre un parcours éducatif à travers des sites importants de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, de la Belgique à la France.
J'inviterais tout d'abord Chloé à approfondir la réalité de la condition des femmes s'impliquant sur le front domestique. Donc, quel emploi exactement occupaient les femmes dans les usines?
Oui, donc je pense que la première chose qui est importante de se rappeler, c'est que les femmes étaient déjà présentes sur le marché du travail avant le début de la Première Guerre mondiale, avant le début de la Deuxième également. Donc, elles sont présentes au niveau du travail domestique, par exemple, également dans les usines, surtout les usines qu'on dit légères, donc par exemple le textile, le vêtement. Certaines d'entre elles ont une éducation, donc sont allées à l'université, elles ont des formations, par exemple, en enseignement ou comme infirmières. Par contre, ce qui va changer avec la guerre, que ce soit la première ou la deuxième, c'est vraiment, premièrement, le nombre de femmes impliquées. Donc, on va vraiment entrer les femmes de masse sur le marché du travail, mais également, il y a une diversification vraiment des emplois disponibles et qui sont jugés comme respectables pour les femmes. Donc, des emplois qui étaient généralement considérés comme masculins auparavant, on va permettre aux femmes en temps de guerre de les occuper. Lorsqu'on parle de ces emplois, on parle par exemple de l'industrie de guerre, donc par exemple munitions, industrie aéronautique. On parle également des trains, on parle également de l'agriculture, ils vont être présents également dans les employés de bureau. Et au niveau du travail de masse, bien, c'est quasiment doublé. Par exemple, en Deuxième Guerre mondiale, on passe de 570 000 femmes avant la guerre à près d'un million à la fin. Et pour vous montrer un peu le type d'emploi que ces femmes-là occupaient, donc je vais vous montrer un extrait du film qui s'appelle Les femmes dans la mêlée, qui a été réalisé en 1943 par Jane March. Et c'est un film qui est une production de l'Office national du film du Canada.
Autrefois manicure, travaille avec sa coéquipière Jean White, ex-vendeuse de magasin. Margaret Crawley, qui il y a deux ans se demandait ce qu'elle ferait dans la vie, est aujourd'hui heureuse de pouvoir ouvrir ce tour et d'être devenue une mécanicienne accomplie. Quant à Jesse James, dont l'ambition était de devenir décoratrice d'intérieur. Elle met sa conscience artistique à faire un travail parfait.
On sait que le travail des femmes dans les industries lourdes à l'époque était un phénomène nouveau et que les conditions des travailleurs en général à l'époque étaient assez loin d'être idéales. Les femmes nouvellement incluses sur le marché du travail avaient-elles droit à un environnement sécuritaire et à une rémunération qui était adéquate?
Dès avant en fait, l'entrée en guerre, les femmes, on l'a dit, sont déjà présentes sur le marché du travail. Elles n'ont pas des conditions qui sont optimales, disons. Elles ont un salaire moins élevé que les hommes. Elles sont souvent non syndiquées. Par contre, avec l'entrée sur le marché du travail, il y a certains emplois qui vont être mieux payés, notamment ceux en industrie de guerre. Donc, si on prend par exemple l'industrie aéronautique, c'est payé 83 sous de l'heure versus un 48 sous de l'heure pour l'industrie textile. Donc, pour les femmes qui arrivent à changer de l'industrie légère vers l'industrie de guerre, bien, c'est déjà une amélioration de leur salaire, même s'il reste un écart avec les hommes. On a par contre également une inquiétude au niveau des conditions sécuritaires. Par exemple, dans les industries de munitions, donc on sait que les femmes elles vont travailler, elles vont être exposées à des produits chimiques. Et ce qui inquiète les autorités, c'est en fait que ça pourrait leur nuire en tant que future mère. Donc, c'est surtout une inquiétude par rapport aux futures générations qui ont une exposition aux produits chimiques.
Et est-ce que toutes ces conditions-là étaient uniformes pour toutes les femmes ou il y avait des disparités?
Non, effectivement, avoir des disparités en fait, au niveau des usines elles-mêmes, mais également on a des différences au niveau des provinces. Donc, quand on parle d'industrie de guerre, c'est surtout l'Ontario, le Québec qui sont concernés par ça au niveau de l'Ouest canadien, mais c'est surtout du travail agricole que les femmes vont faire, donc ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Et on a également une différence au niveau des classes sociales. Donc, les femmes de la classe moyenne vont généralement obtenir des postes de supervision, donc mieux payés, contrairement aux femmes de la classe ouvrière.
Donc, malgré l'inconsistance des conditions des femmes, leur simple présence représente en soi un bouleversement du marché du travail et une grande controverse pour la société. Donc, on sait même que ça va faire naître plusieurs craintes chez la population par rapport à l'identité féminine. Donc, comment est-ce qu'on pensait que le travail au front domestique allait affecter la féminité, la moralité des travailleuses?
Oui, donc, que ce soit au niveau des industries ou même, en fait, dans l'armée avec les infirmières, on a une espèce de peur que les femmes, en ayant des emplois qui sont jugés masculins, eh bien qu'elles deviennent masculines également. Donc, au début du 20e siècle, quand on parle de féminité, c'est beaucoup associé à la maternité, donc à la capacité d'être une bonne épouse, d'être une bonne mère. Donc, ça passe par la dévotion, le fait de prendre soin, le fait d'être délicat, d'être à l'écoute. Et on a cette crainte-là là, qu'en ayant des emplois plus masculins, mais qu'on perde ce côté maternel-là. Et on a également peur qu'elles veuillent rester sur le marché du travail. Donc, que ce soit l'armée ou le gouvernement, il est très clair pour eux que les femmes en industrie lourde, c'est vraiment une mesure qui est temporaire. On veut qu'elles retournent absolument à la maison, en fait, à la fin de la guerre. Pour le niveau de la moralité, mais là, en fait, on s'inquiète parce que il y a encore des contacts entre les hommes et les femmes dans les industries parce que les femmes ne remplacent pas totalement les hommes. Donc, si on prend, par exemple, l'industrie aéronautique, bien, les travailleurs masculins représentent encore le 2/3 des gens qui travaillent dans cette industrie-là. Donc, il y a un côtoiement entre les femmes et les hommes qui est jugé comme un peu risqué par certaines autorités, ce qui fait en sorte que, par exemple, dans l'industrie des munitions, on va employer une superviseure du bien-être. Donc, c'est une femme qui est issue de la classe moyenne, qui va un peu jouer le rôle de mère auprès des travailleuses de la classe ouvrière. Donc, elles ont le rôle, en fait, de s'assurer que l'uniforme est bien porté, qu'elles ont un comportement adéquat. Elles vont également trouver un logement qui est correct pour les ouvrières qui arrivent de l'extérieur de la ville, voire de l'extérieur de la province.
Malgré le fait qu'on ne considérait pas les femmes comme étant assez responsables pour s'auto-gouverner, ce qui était visiblement motivé par des croyances misogynes, il est vrai qu'à l'époque, il était assez difficile pour la femme de gérer tout ce qu'il pouvait y avoir sur son assiette. Donc, en considérant la persistance des rôles féminins traditionnels, comme celui d'être mère, comment la travailleuse réussit-elle à gérer cette double charge, d'une part familiale et de l'autre part professionnelle?
Oui, donc vous avez peut-être déjà entendu parler dans les dernières années du terme, ce concept de charge mentale. Bien, c'est effectivement présent aussi pour les femmes dans la Première, dans la Deuxième Guerre mondiale, qu'elles soient mères ou pas, parce qu'il faut comprendre là, que surtout dans la Première Guerre mondiale, il y a peu de mères qui sont sur le marché du travail dans les industries. Par contre, elles sont présentes au niveau du travail agricole. Donc, pour ces femmes-là dont le mari, dont les enfants sont partis, elles se retrouvent avec la charge des enfants, la charge du travail domestique. Elles doivent s'occuper de la gestion des finances, de la gestion de la terre, incluant les récoltes, incluant également le fait de trouver des travailleurs pour s'occuper de cette terre-là. Et ça, c'est sans compter le fait que le gouvernement a une attente que les femmes, surtout de la classe moyenne, s'investissent en temps bénévole. Donc, au niveau du travail volontaire là, non rémunéré.
Donc, en considérant toutes ces responsabilités, est-ce que la femme était vraiment obligée de travailler en usine ou est-ce qu'elle pouvait s'engager autrement? Est-ce qu'on attendait d'elle qu'elle se donne entièrement à la cause?
Donc, on n'a pas une attente qu'elle se donne entièrement. Par contre, on s'attend à ce qu'elle participe à l'effort de guerre, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Donc, les travailleurs, ça va être au niveau de l'emploi dans les usines. Et pour les femmes de la classe moyenne, bien, on s'attend à ce qu'elles participent avec des heures de travail non rémunérées, donc du travail volontaire. Donc, on parlait de collecte de fonds, collecte de vêtements, donc elles vont fabriquer des bandages, fabriquer des courtepointes, fabriquer des vêtements qu'elles envoient au front. Elles vont faire des collectes de livres également pour envoyer dans les hôpitaux. On parle en termes d'argent ramassé, là, 318 millions de dollars dans la Deuxième Guerre mondiale qui sont ramassés juste par la vente de bons d'épargne de guerre. Donc, c'est énormément d'argent qui est ramassé par les femmes. Elles vont être également volontaires comme aides infirmières, donc certaines d'entre elles vont être envoyées en Grande-Bretagne.
Donc, visiblement, les femmes qui demeuraient au Canada étaient absolument vitales à l'effort de guerre et leur résilience ne devrait pas être négligée. Une facette de l'implication des femmes lors des guerres qui est cependant plus présente dans notre imaginaire collectif, est celui de leur présence sur le front de guerre. Donc, on peut les voir souvent sur des images d'archives, qui pratiquent des fonctions d'infirmière, que ce soit pendant les années 1910 ou les années 1940. Chloé, que dirais-tu, étaient les principales similarités entre la réalité des infirmières pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale?
Oui, donc que ce soit pendant la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, le rôle en tant que tel des infirmières est assez semblable. Donc, on sont vraiment là pour venir supporter les médecins, ils sont là pour prendre soin des soldats qui sont blessés ou malades. Donc, leur tâche va être assez diversifiée. Donc, elles s'occupent, elles assistent durant les opérations, elles vont administrer les médicaments, administrer les vaccins, elles vont s'occuper des plaies avant les opérations, après les opérations également, elles vont s'occuper de voir s'il y a des signes d'infection, elles vont s'occuper des malades. On a énormément de maladies sur le front, sur la Première, la Deuxième Guerre mondiale. On parle de dysenterie, de pneumonie, l'influenza, évidemment, pour 1918. Et elles sont également là pour offrir du réconfort en tant que femme. Et elles travaillent sur des lieux qui sont assez semblables sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, là, principalement dans les hôpitaux militaires canadiens, qui sont au Canada, en Grande-Bretagne et en France. Elles sont également présentes sur les unités mobiles, donc plus proches du front, donc dans les théâtres actifs. Elles vont être présentes également sur les avions de rapatriement durant la Deuxième Guerre mondiale et enfin sur les navires hôpitaux également.
Et est-ce qu'il y a des différences marquantes entre les deux époques?
Oui, donc une des différences qu'on peut voir est au niveau de leur intégration dans l'armée. Les infirmières, on va dire, militaires de la Première Guerre mondiale ne sont pas intégrées formellement dans l'armée, ce qui est par contre le cas de celles dans la Deuxième Guerre mondiale. Donc, elles vont avoir vraiment un poste dans l'armée et ça vient avec une formation qui est un peu plus militaire, donc lorsqu'elles sont engagées. Donc, certaines d'entre elles vont avoir fait des drills, vont avoir appris à lire des maps, appris à faire du judo, à conduire une ambulance, conduire des motos. Certaines vont même avoir appris à tirer, bien qu'il semblerait là, que les formations aient vraiment été différentes d'une infirmière à l'autre. Et c'est également au niveau des conditions de travail qu'on a certaines différences. Donc, oui, dans les deux cas, là, ça va être des conditions de travail très, très difficiles lorsqu'elles sont proches du front. Donc, on parle par exemple de vraiment quelque chose de difficile au niveau des arrivées massives de soldats qui arrivent avec des blessures totalement nouvelles. On peut penser par exemple au gaz, puis penser également au shrapnel dans la Première Guerre mondiale. Elles ont des conditions sanitaires qui sont vraiment déplorables, on pourrait dire, comparativement à ce qu'elles ont été habituées durant leur service civil. Par contre, si on arrive avec la Deuxième Guerre mondiale, mais là, on a des nouveaux théâtres, on dirait tropicaux. Donc, on pense par exemple à l'Italie, à l'Afrique du Nord, à Hong Kong également. Donc, c'est tout un nouveau cocktail le météo, cocktail de nouveaux insectes et également de maladies qu'ils ne connaissaient pas avant.
Donc, c'est assez apparent que les femmes s'impliquaient, faisaient face à des défis complètement nouveaux, étrangers, puis même mortels des fois, qui sont pas particulièrement attirants à nos yeux aujourd'hui. Donc, c'était quoi le profil de ces femmes qui choisissaient de s'engager comme infirmières militaires et qui devaient faire face à tous ces défis-là?
Oui, donc si on parle de chiffres, on parle de 3 141 infirmières pour la Première Guerre mondiale et de 4 079 pour la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que ce qui est peut-être primordial de se rappeler par rapport à ces infirmières militaires-là, c'est d'abord et avant tout qu'elles étaient compétentes. Donc, pour les deux guerres, c'est des infirmières qui avaient d'abord une formation universitaire comme infirmières civiles et elles avaient également de l'expérience, en fait, comme déjà sur le terrain au Canada, parce qu'il y a énormément en fait d'infirmières qui vont postuler pour être des infirmières militaires pour les deux guerres, ce qui fait en sorte que les autorités militaires vont être capables de prendre celles qui ont le plus d'expérience sur le terrain également comme superviseurs. C'est un groupe qui est assez homogène au niveau des infirmières, donc elles sont majoritairement, en fait elles sont presque toutes blanches, majoritairement anglophones, protestantes, elles sont majoritairement également issues de la classe moyenne. En fait, les raisons sont assez simples. Pour le fait que la formation des infirmières civiles n'était pas ouverte aux femmes de couleur. Donc, il n'y a pas de femmes noires, autochtones ou asiatiques qui ont pu suivre cette formation-là, donc qui ont pu être employées par l'armée après. Elles sont également majoritairement anglophones, bien que quelques francophones qui se sont engagées. Par contre, on les envoyait suivre un cours de langue anglaise à Kingston avant d'être intégrées formellement à l'armée. Donc, elles sont également majoritairement protestantes. Et puisque la formation d'infirmières civiles était quand même assez dispendieuse, elle demandait également quelques années. Donc, c'est surtout les femmes de la classe moyenne qui ont pu se permettre d'assister à cette formation-là. Donc, elles représentent environ 75% des infirmières militaires. Et enfin, elles sont presque toutes célibataires, puisqu'on ne veut absolument pas dans la société qu'il y ait des femmes mariées et surtout pas avec des enfants qui soient sur le front. Donc, c'est vraiment majoritairement des femmes célibataires qui sont employées par l'armée.
Et parmi ce groupe homogène de femmes, c'était quoi généralement les motivations qui les poussaient à s'inscrire?
Oui, donc si on regarde au niveau de leur témoignage à elles, elles vont surtout parler en fait de patriotisme. Donc, ce serait la raison principale qu'elles mettent de l'avant. Donc, elles ont voulu s'engager dans l'effort de guerre comme femmes. Par contre, il faut quand même regarder les conditions de travail qui sont vraiment excellentes pour bien comprendre pourquoi toutes ces femmes-là sont engagées. Donc, c'est un salaire qui est très élevé. Dans la Deuxième Guerre mondiale, on parle de 3 fois le salaire qu'elles avaient en tant qu'infirmières civiles. Et également, que ce soit avant la première ou avant la deuxième, les infirmières avaient de la misère à trouver de l'emploi stable à long terme dans la société. Elles ont également accès à des soins dentaires, des soins médicaux. Elles ont accès à un logement, de la nourriture, un uniforme. Elles peuvent voyager. Et également, elles sont proches des soldats au front. Donc, c'est toutes des caractéristiques qui font qu'elles ont pu s'engager également.
Donc, en effet, ils étaient assez bien récompensés pour leur implication au front de guerre. Mais malgré les nombreux avantages qu'il y avait à s'impliquer en tant qu'infirmière, les femmes n'étaient pas exemptes des risques et plusieurs sont même décédées. Est-ce que leur sacrifice est honoré au même titre que celui des soldats?
Oui, donc effectivement, on a beaucoup moins de commémorations pour les infirmières et c'est dommage parce que si elles ne sont pas décédées en si grand nombre, donc on parle après d'une quarantaine pour la Première Guerre mondiale et de 17 pour la deuxième, elles ont quand même sauvé beaucoup de vies par leur travail sur le front. Donc, il y a peu de fêtes de commémoration pour elles. Par contre, depuis les années 2000, en fait, on le sait, là, les commémorations commencent à être un peu plus importantes parce qu'on se rend compte que les gens décèdent. On a quelques commémorations de plus qui vont être faites et je voulais justement vous montrer une vidéo qui va aborder le décès de l'une de ces infirmières-là, canadienne sur le front pendant la Première Guerre mondiale.
Ses funérailles étaient très belles. Plus de 100 infirmières et des officiers du personnel britannique et américain étaient là. C'est réconfortant de voir l'estime que ses collègues avaient pour elle. J'ai peine à accepter ce qui lui est advenu.
On peut voir que c'est en effet dommage qu'on considère assez peu le sacrifice de ces infirmières, du moins avant les années 2000, qui, outre leur travail en tant qu'aide médicale, représentaient vraiment un certain symbole de l'identité féminine parmi les hommes. Est-ce que tu pourrais élaborer sur leur rôle symbolique et l'impact que cette représentation a eu sur l'image qu'on a aujourd'hui de l'infirmière?
Oui, donc on en a parlé un peu plus tôt que justement la vision qu'on avait des femmes au début du 20e siècle, on a vraiment une femme qui est d'abord avant tout une mère et une épouse. Par contre, lorsqu'elles occupent un emploi, celui d'infirmière est vraiment très bien vu dans la société canadienne parce que c'est un emploi qui est considéré comme féminin. Donc, il faut vraiment tout prendre les caractéristiques associées à la féminité, donc prendre soin, se dévouer, la douceur, l'écoute. Et donc, c'est vu comme un bon moyen pour les femmes de s'impliquer dans la guerre. Et l'uniforme des infirmières va vraiment venir représenter un peu cette féminité-là. Donc, c'est pas l'image qu'on voit en ce moment, c'est celle pour les infirmières de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de bataille. Par contre, la majorité d'entre elles portaient un uniforme qui ressemble plutôt à celle de la Première Guerre mondiale. Donc, comme on peut voir ici, donc elles portent le voile, donc qui est vraiment représenté, qui vient s'associer à la religion. Donc, on vient un peu désexualiser également les infirmières de cette manière-là pour les associer plus à une mère qu'à une épouse potentielle. Elle porte également le tablier, qui est, oui, a une fonction utilitaire importante. Par contre, il vient également rappeler les racines subalternes et domestiques des infirmières. Et c'est un terme que vous avez peut-être entendu plusieurs fois ces temps-ci avec la situation du coronavirus. On va associer le personnel soignant à des anges gardiens. Et ça date depuis la Première Guerre mondiale, depuis la Deuxième également. Donc, on est vraiment dans la symbolique que ces femmes-là sont dans la dévotion pour la cause. Elles sont là, leur nature féminine est de prendre soin. Donc, c'est leur rôle. Et on n'est plus dans une vision là, de la mère sacrificielle qui s'expose volontairement au risque, que ce soit pendant la Première mondiale ou encore aujourd'hui, on a encore un peu cette image-là qui est là.
Et ces femmes qu'on voit comme des anges gardiens sur le front de guerre, est-ce qu'elles sont toujours restées à l'extérieur du combat ou est-ce qu'éventuellement elles ont gagné des nouvelles responsabilités qui leur ont permis de s'impliquer sur le front même là, avec les soldats?
Oui, mais pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le rôle en fait des femmes va toujours rester à l'extérieur des combats. Donc, elles ne seront jamais amenées à porter des armes. Il faut vraiment attendre les années 1980 pour que tous les postes au sein des Forces armées canadiennes soient accessibles aux femmes. Par contre, durant la Seconde Guerre mondiale, elles vont quand même intégrer l'armée en tant que telle. Donc, d'abord comme infirmières, on l'a vu un peu plus tôt, elles vont être intégrées formellement. Puis également au sein des, ce qu'on appelle les Canadian Women's Army Corps, qui a été créé en 1941. Et c'est une branche non combattante de l'armée. Donc, elle a été créée, en fait, pour libérer les hommes qui étaient dans ces branches-là, pour les envoyer vers les branches combattantes. Et elles ont été remplacées par des branches féminines. Et ça l'inclut également, donc on parle de 20 000 femmes dans les Canadian Women's Army Corps. Il y en a également 17 000 dans les forces de l'air et 7 000 dans la marine.
Et à l'intérieur de ces divisions-là, est-ce que les limitations sexistes qu'on leur imposait persistent toujours?
Oui, donc effectivement, on voit ici là, avec l'image là, que les femmes avoir un emploi qui est peut-être considéré un peu plus comme masculin. Par contre, la majorité d'entre elles continuent d'avoir des tâches féminines. Donc, elles s'occupent de la cuisine, elles s'occupent du ménage, elles sont là comme secrétaires, comme téléphonistes. Par contre, peu à peu, on va leur donner des emplois qui sont de plus en plus considérés comme masculins. Donc, on pense, par exemple, à la conduite de voiture, à la réparation. Elles vont faire du décodage également avec la marine. Elles vont s'occuper de repérage pour une unité de défense antiaérienne avec les forces de l'air. Elles vont également faire de la signalisation. Donc, vraiment plusieurs rôles qui sont considérés ici comme plus masculins. Et ça va être un peu problématique parce qu'en 1943, on va avoir une chute de l'enrôlement des femmes dans les forces auxiliaires. Et un sondage qui a été mené auprès de la population va révéler que c'est le fait que la population trouve ça un peu étrange que ces femmes-là veulent avoir des emplois masculins. Ils doutent également un peu de leurs mœurs parce qu'elles vont côtoyer des hommes. Donc, c'est vraiment une inquiétude par rapport à la moralité des femmes et à la féminité des femmes dans les forces auxiliaires. Donc, dans ce contexte-là, l'armée va mettre en place une espèce de campagne de promotion, de recrutement pour aller attirer les femmes, pour leur montrer que les forces auxiliaires, bien, elles sont disciplinées, elles vont pouvoir rester également féminines. Donc, pour cette raison-là, je vais vous montrer un troisième extrait de film qui s'appelle « Nos femmes zélées », qui a été réalisé en 1943 par Jane March. Et c'est une production de l'Office national du film du Canada. On va bien voir, en fait, cette campagne de recrutement.
Un service jeune, elle regarde les yeux d'un pays jeune, qui regarde avec courage dans les cieux l'avenir qui lui est réservé. Voilà les femmes de l'aviation canadienne, nos femmes zélées, qui permettent aux hommes de voler.
Et donc, comme on peut les voir sur le film, ces pionnières en matière de l'inclusion des femmes dans l'univers militaire ont dû vivre, on s'entend, beaucoup d'obstacles, de rejets et de résistances. Elles étaient visiblement dans un monde d'hommes. Comment définirais-tu leur position face à l'autorité et est-ce qu'elles-mêmes pouvaient avoir des rôles d'autorité dans l'armée?
Oui, donc quand on regarde en fait que ce soit dans l'armée, que ce soit au niveau des infirmières et même en fait dans les usines, la guerre ne va pas nécessairement changer les dynamiques de genre. Donc, les femmes vont être encore considérées comme devant être supervisées, devant être guidées. Donc, c'est vraiment une position de subalterne là, dans l'armée et dans les usines. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, c'est au niveau des infirmières, dans la Première Guerre mondiale, même si elles ne sont pas formellement intégrées à l'armée, elles vont tout de même avoir le poste d'officier. Donc, on va leur donner ce poste-là pour, un, réduire les risques de fraternisation avec les soldats, avec les patients, mais également pour leur donner un minimum d'autorité sur ces patients-là qui sont en majorité des soldats non gradés. Et, fait intéressant, elles sont les seules parmi les forces de l'entente, que ce soit les Américaines ou les Britanniques, à avoir ce rang-là d'officier. Et ça va être également le cas pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les femmes vont avoir le rang de lieutenant. Et ça vient avec la paye d'un lieutenant qui est la même que celle pour les hommes. Donc, on a tout de même, on en a parlé plus tôt, des craintes par rapport à la féminité, par rapport à la moralité des femmes. Et c'est compliqué pour ces femmes-là parce qu'elles doivent avoir, elles doivent être capables de remplir plusieurs rôles en même temps. Donc, on leur demande, un, d'être compétente en tant que, soit dans les forces auxiliaires ou en tant qu'infirmière, donc de montrer leurs compétences, de montrer leur autorité en tant qu'officier. On leur demande également de faire partie du groupe, donc d'être one of the boys, qu'on pourrait dire, tout en leur demandant d'être encore féminine, de rappeler aux hommes sur le front une présence de la famille, une présence de la femme. On leur demande d'être également de remonter le moral. Donc, c'est vraiment plusieurs rôles qu'on leur demande d'avoir et c'est pas nécessairement facile pour ces femmes-là de combiner tout ça.
par rapport à ce qu'il y a, à leur relation avec leurs collègues masculins, les femmes impliquées, est-ce qu'elles dénoncent quelconque injustice ou est-ce qu'elles se voient comme étant traitées de manière égale avec leurs collègues masculins?
Mais c'est une question qui est vraiment intéressante parce que on pourrait justement se poser la question, est-ce qu'il y avait du harcèlement, est-ce qu'il y avait de la discrimination, voire de la violence sexuelle? Et la réponse est probablement. Par contre, les femmes elles-mêmes, elles n'en parlent vraiment pas, en fait, dans leur témoignage, qu'ils soient écrits ou oraux. Elles vont vraiment avoir un accent sur tout ce qui est positif. Donc, elles ne parlent pas de leur peur, elles ne parlent pas des erreurs qu'elles ont vécues, elles ne parlent pas du stress qu'elles ont vécu sur le front, mais elles vont plutôt se concentrer sur les anecdotes de voyage, qu'est-ce qu'elles faisaient lorsqu'elles n'étaient pas au travail. Elles vont parler du courage des hommes et tout ce qui est négatif va être un peu... c'est comme une auto-censure, en fait, de ces femmes-là. Donc, la réponse, on ne le sait pas vraiment comment ça se passait véritablement entre les hommes et les femmes sur le front. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu quand même plusieurs mariages qui ont lieu après, surtout après la victoire là, qui vont avoir lieu.
Donc, en se basant sur ces diverses expériences de guerre vécues par les femmes canadiennes, que ce soit en usine ou au front, ou que ça ait abouti en mariage ou avec même la mort, est-ce que tu dirais que la place et l'identité de la femme en société au Canada ont changé de manière permanente grâce à cette implication-là ou non?
Bien, je pense en fait que c'est une question qui est quand même difficile à répondre, entre autres parce que les historiens et les historiennes qui se sont penchés sur la participation des femmes dans les deux guerres mondiales ne s'entendent pas à propos de savoir si la guerre a eu un caractère émancipateur pour les femmes. Donc, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des changements importants qui ont été amenés par la guerre. Donc, on peut parler, par exemple, du droit de vote, qui est important de mentionner. Les femmes ont eu accès à des nouveaux emplois qui étaient considérés comme masculins. Elles ont fait partie de l'armée. Donc, c'est vraiment des changements qui sont importants, par contre, qui ne sont pas nécessairement permanents. Donc, on le sait, on en a parlé, les femmes sont renvoyées à la maison. Les femmes en usine sont renvoyées à la maison dès le retour des hommes parce que ce sont eux qui sont considérés comme le pourvoyeur de la famille. Donc, c'est eux qui doivent avoir les emplois en priorité. Mais également, au sein même des usines, les dynamiques ne changent pas. Donc, les femmes sont encore supervisées, sont encore guidées. On a encore la vision qu'elles doivent absolument... En fait, elles ne peuvent pas faire du travail à long terme, elles ne peuvent pas avoir de promotion parce qu'au final, leur rôle, c'est d'être mère. Donc, éventuellement, elles vont quitter. Donc, ça ne vaut pas la peine d'investir dans ces femmes-là. Et c'est un peu la même chose avec les forces auxiliaires. Donc, les forces auxiliaires vont être complètement défaites après la Deuxième Guerre mondiale. Elles vont être remises seulement lors de la guerre de Corée, là, dans les années 50.
Et justement, il est important de souligner que la violence de la guerre n'était pas le seul type de violence auquel les femmes présentes en Europe devaient faire face. Donc, si on fait abstraction des femmes canadiennes puis on se concentre plus sur les femmes en Europe, à quoi ressemblait leur expérience pendant les guerres mondiales?
Oui, donc je pense que c'est important de le préciser parce qu'il y a eu une diversité des expériences pour les femmes canadiennes, on l'a vu, hein, donc elles ont travaillé dans les champs, travaillé dans les usines, travaillé dans l'armée, elles sont impliquées volontairement également, mais si on regarde les femmes européennes qui étaient très, très proches du champ de bataille, on connaît des expériences qui sont différentes et qui sont assez violentes dans certains cas, là. Donc on parle de bombardements, on parle d'occupation militaire, on parle également de rationnement qui est un peu plus important que celui qu'on a eu au Canada. Malheureusement, il y en a qui ont fait face à de la prostitution, on a également qui ont fait face à des violences physiques, psychologiques, sexuelles. Donc, c'est une expérience qui est quand même différente pour ces femmes-là, donc qui est encore plus diversifiée que ce que les femmes canadiennes ont pu vivre. Heureusement, en fait, pour les femmes canadiennes, elles ont été épargnées cette partie-là de la guerre parce qu'elles n'étaient pas sur le front, ou du moins, la majorité n'était pas aussi proche du front que les femmes européennes.
Donc, en prenant du recul sur ce thème-là du rôle des femmes canadiennes lors des deux guerres mondiales, on réalise qu'une grande partie des possibilités et des libertés qui nous sont accordées aujourd'hui, ces femmes-là étaient vraiment des pionnières dans ces domaines-là et aussi qu'elles ont réussi à accomplir ça dans des périodes de grande crise. Donc, tout comme la bataille de la Crête de Vigny représente pour plusieurs Canadiens le symbole de la naissance de notre pays en tant que nation indépendante. Ces femmes ont marqué le début d'une nouvelle ère pour tant de personnes à travers le Canada. Et leur histoire vaut la peine d'être non seulement dite, mais répétée. Et grâce à leur histoire, il nous est possible de gagner une perspective plus globale sur c'est quoi l'évolution. Donc, en 2020, on vit dans un monde où le climat est très tendu, où il y a plusieurs conflits qui émergent, où plusieurs inégalités sociales sont comme révélé au grand jour, et c'est rassurant de savoir qu'il y a tant d'innovations qui peuvent émerger de telles crises planétaires comme les deux guerres mondiales. Et donc, pour ça, l'histoire nous est précieuse en tant que société. Donc, merci infiniment à Chloé Poitras-Rumont pour ta perspective unique et ton expertise sur le sujet.
J'aimerais remercier les partenaires de la série, l'Office national du film du Canada, pour les séquences du film Wings on Her Shoulder et Anciens combattants Canada pour leur appui à par-delà la crête. Ce webinaire a aussi été créé en collaboration avec le Club universitaire de Montréal, dédié à l'échange d'idées et au développement de la collégialité. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Dans nos prochaines balados, nous explorerons d'autres sujets passionnants, tels que l'impact de la guerre sur l'environnement, la loi sur les mesures de guerre et les commémorations. Nous espérons que vous resterez avec nous. Merci d'avoir écouté Par-delà la crête et à la prochaine. Par-delà la crête est une balado de la Fondation Vimy. Cette série est produite en partenariat avec l'Office national du film du Canada, avec l'appui d'Anciens combattants Canada. Former un avenir informé par le passé. La Fondation s'efforce de préserver et de promouvoir l'héritage continu du Canada en matière de leadership, comme en témoigne la victoire de la crête du Vimy lors de la Première Guerre mondiale en avril 1917, un événement ayant contribué à la reconnaissance du Canada sur la scène mondiale.